Nous retrouvons lentement nos libertés. Et c'est un soulagement apprécié par tous. Certains me disent leurs désagréments ressentis à s'inscrire pour venir participer à l'Eucharistie, à chanter avec un masque, etc., toutes ces contraintes, que c'est désagréable. Eucharistie, on y va quand on veut, comme on peut, comme on veut. Et si c'est pas cette heure-là, c'est l'autre heure, etc. Voilà. Donc évidemment, moi je comprends tout à fait cet agacement chez certains, mais si nous subissons toutes ces contraintes, si nous adhérons à tout cela, c'est avant tout pour le bonheur de participer à l'Eucharistie, ce n'est pas autre chose, puisque c'est la condition sine qua non. Et j'espère que la joie l'emporte sur la gêne causée par les règles sanitaires. Accepter des contraintes pour retrouver les libertés. Moi, ça me rappelle de loin, avec beaucoup de précautions, ça me rappelle l'exode des Hébreux en terre promise. C'est qu'une simple petite analogie, ce n'est pas une comparaison. Pour eux, le parcours est long, il est dangereux, aride, risqué. Ils risquent leur vie. Du reste, le peuple manque d'eau, de pain, et il a tendance à se révolter contre Moïse. Où nous as-tu emmenés ? Pourquoi faire ? Allez, on retourne en Égypte, au moins, on peut manger des légumes là-bas. Et au fin fond de leur détresse se produit des miracles. L'eau qui surgit du rocher, cette manne, cette nourriture mystérieuse qui descend du ciel et qui va leur permettre de survivre. Résultat, qu'est-ce qu'on en pense ? Dieu prend soin de son peuple. Il le nourrit pour qu'il puisse l'amener jusqu'au but, c'est-à-dire la terre promise, que le peuple soit installé durablement dans la terre promise, qu'il puisse être heureux et vivre paisiblement. Jésus fait référence à ce pain providentiel qui a nourri momentanément les ancêtres. Mais le pain que Jésus donne aux disciples est d'une autre nature. Il est nourriture pour la vie éternelle. Si on relit bien ce discours du pain de vie dans Saint Jean, il est choquant. D'ailleurs, il a conduit les premiers chrétiens à être accusés d'anthropophagie. Et oui, le pain vivant est le corps du Christ. Le vin est le sang du Christ. Celui qui mange ce pain et boit ce vin, mange le corps du Christ, boit le sang du Christ. Le chrétien reçoit la vie du Christ, pour dire les choses autrement. Ce pain et ce vin sont nourriture, le pain que donne Jésus et le vin sont nourriture pour la foi et pour notre capacité à aimer. On pourrait dire dans un premier temps, c'est un geste de partage, équivalent à ce qui se passe dans le désert quand la manne tombe du ciel. Geste de partage qui rappelle les repas que nous prenons chaque jour, pris en famille ou pris avec les amis. Mais il se passe bien autre chose, évidemment, pendant l'Eucharistie. Ce que nous accueillons en nous chaque fois que nous communions, c'est le Christ qui se donne à chacun de nous. Il faut le dire, tout tient dans la phrase, Le Christ qui se donne, ce n'est pas seulement la vie du Christ, ça n'est pas chosifié, c'est un dynamisme, c'est un élan, un mouvement. Le Christ qui se donne à chacune, à chacun d'entre nous, le don qu'il fait de sa vie, aujourd'hui, ce don est bien réel. Il est efficace, il est tangible. Nous communions à celui qui se donne à l'humanité et qui nous engage à aimer l'humanité du même amour qu'il l'aime, qu'il l'a aimé, en imprimant en nous le don, ce mouvement du don du Christ à l'humanité. La communion fait de nous une nourriture pour le monde. Elle opère des transformations profondes pour le monde. Vous voyez, quand on mange d'ordinaire, les mets que l'on mange deviennent notre corps. Et là, c'est exactement l'inverse. nous devenons la nourriture que nous mangeons. Quand nous communions au corps du Christ, chaque chrétien, chaque chrétienne est envoyé dans le monde pour participer au don que fait le Christ à l'humanité en attente de rédemption. La liturgie développe bien ce mouvement parce qu'elle le célèbre. Et si elle le célèbre, c'est pour que notre cœur comprenne ce qui se passe, que le fait de communier revient à accepter de participer pleinement au don que le Christ fait de sa vie au monde. On a pu vivre récemment, pendant ces dernières semaines, l'empêchement de communier. Et il a très bien pu causer un sentiment de manque et parfois d'agacement, de colère. Mais il nous a peut-être aidés à prendre conscience de la richesse de l'Eucharistie, de ses effets en nous, même en l'absence de l'acte physique. Comment pourrait-on dire, parce que l'on ne peut pas communier, que Dieu a cessé de nous aimer? Ce n'est pas possible. Alors, pendant ce temps, j'avais fait une petite instruction par Internet, par le site, sur le sens de la communion spirituelle. Et le fait est que beaucoup, hélas, de chrétiens, de chrétiennes, ne peuvent pas communier physiquement, mais qui sont engagés à la communion spirituelle. Ils ne peuvent pas communier physiquement parce qu'il n'y a pas de ministre dans la paroisse, il n'y a pas de prêtre, où il y a une messe par an, ou bien ils sont dans des régions reculées, qui ne sont jamais visitées par des missionnaires ou par des prêtres, ou bien ils sont dans une situation personnelle difficile qui ne leur permet pas de communier. Combien parmi nous sont dans cette situation? Et cependant, Dieu ne les oublie pas. L'amour de Dieu s'adresse aussi à eux. La communion spirituelle consiste à prendre conscience que le Seigneur ne s'arrête pas à nos contraintes, à nos impossibilités, mais qu'il continue à se donner, si on ouvre vraiment son cœur en toute sincérité, à cet acte du don. On parle de la communion de désir pour se préparer à cette communion spirituelle ou à cette communion que nous allons prendre tout à l'heure. C'est une façon de creuser la vraie faim en nous, la faim de Dieu, la faim F-A-I-M, la faim de l'amour de Dieu dans nos vies. Est-ce que nous avons cette faim? Est-ce que nous prenons soin de creuser cette faim en nous en allant participer à l'Eucharistie? C'est ce que je vous souhaite. Amen.